Les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris-Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Aujourd'hui, Alexandre Daniel nous parle de l'adaptation de la procédure pénale au phénomène terroriste. Épisode 1, histoire de la procédure pénale en matière terroriste.
Chères auditrices, chers auditeurs, enjeu sécuritaire, politique et social majeur de l'époque, le terrorisme est une préoccupation centrale de la procédure pénale contemporaine.
Comment appréhender un phénomène si mouvant, si particulier par rapport à la criminalité ordinaire ? La procédure pénale s'est adaptée à toutes les étapes du processus judiciaire, dans un mouvement que nous vous proposons d'explorer ensemble.
Dans les épisodes prochains, nous étudierons les spécificités de la procédure pénale face aux phénomènes terroristes dans les différentes phases du processus judiciaire, avant, pendant et après le procès, puis le passage de cette spécialisation dans le droit commun.
Mais avant tout, Alexandre va introduire le sujet dans cet épisode et nous apporter un éclairage historique.
Chères auditrices et chers auditeurs, c'est une chose communément admise qu'il existe un droit en temps de paix et un droit en temps de guerre qui y déroge. Déjà, à Rome sous la République, pouvait-on nommer un magistrat extraordinaire, le dictateur pour une période de 6 mois en cas de grand péril pour l'existence des institutions. Ce droit de la guerre est par nature dérogatoire au droit de la paix, à proprement parler un droit d'exception. Le temps de répondre à la menace, le pouvoir de l'État est augmenté et les libertés publiques et individuelles réduites. Le terrorisme vient brouiller ce cadre théorique. Le terrorisme, c'est l'intervention de faits de guerre dans l'état de paix, ou du moins dans une paix de façade. Je veux dire l'absence d'une guerre conventionnelle, celle opposant une entité structurée à une autre de même nature. La définition du terrorisme a posé et pose toujours problème, car elle dépend bien souvent, dans l'esprit commun, de la légitimité donnée à l'acte en question. Une illustration récente nous est donnée à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023 par des combattants du Hamas à l'encontre de civils israéliens, laquelle a fait naître des disputes médiatiques et académiques sur la qualification terroriste, et de l'acte en lui-même, et du groupement qui en est l'auteur. Pour prendre une définition consensuelle, celle du Larousse, on entend par terrorisme un ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. On distingue, outre l'absence de guerre conventionnelle, deux critères principaux du terrorisme. La violence pour instituer la terreur et un but politique. Longtemps dans l'histoire, le phénomène exista sans le mot. Et même le mot visa à l'origine le contraire de ce qu'il signifie désormais. En effet, le terme terrorisme est apparu sous la Révolution pour désigner la doctrine des partisans de la terreur. C'est-à-dire une doctrine de l'État contre ses adversaires et non une doctrine des adversaires de l'État contre celui-ci. Au cours du XIXe siècle, le terrorisme prit sa tournure contemporaine, et le phénomène lui-même se développa à mesure que grandissaient les médias modernes, formidable caisse de résonance de la terreur projetée. La France a peur, pour reprendre une formule bien connue. Si les régimes politiques du XIXe siècle luttèrent contre le terrorisme sans outils juridiques particuliers, puisque ces régimes furent majoritairement autoritaires et disposaient en quelque sorte déjà de la puissance coercitive nécessaire pour y faire face, la donne change avec l'avènement de la Troisième République en 1870. Le principe d'un État de droit commence à poindre, on cherche à ménager le pouvoir de l'État avec les droits des individus, en somme, l'ordre public ne justifie plus tous les sacrifices. Mais la Jeune République doit faire face à partir des années 1880 à plusieurs vagues d'attentats anarchistes, mouvement qui promeut l'action directe. En 1892, l'ouvrier Ravachol commet une série d'attentats à la bombe. En 1893, Auguste Vaillant lance un engin explosif au sein de l'Assemblée nationale. La situation atteint son paroxysme en 1894. Sadi Carnot, président de la République, est assassiné. La réaction ne se fait pas attendre de la part des autorités. Le Parlement adopte les fameuses lois scélérates, forme de censure légale et de répression à large échelle visant explicitement une opinion politique en France. Pour autant, la répression prend la forme du droit commun pendant toute la Troisième République. Si on saisit dans l'esprit la spécificité de la répression, rien sur le plan juridique ne témoigne d'un caractère d'exception des procédures en cause. Le terme même de terrorisme restera longtemps absent du droit positif. De même que l'infraction politique, qu'on oppose à l'infraction de droit commun, cessera d'être ainsi qualifiée en raison des mobiles de l'auteur après l'arrêt Kurgloff rendu en 1932 par la Cour de cassation. Nous vous proposons un petit intermède musical en l'honneur de toutes les victimes du terrorisme, avec Perlimpinpin de Barbara, que l'on a entendu notamment lors des commémorations des attentats de novembre 2015.
Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous, je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes, je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant. Comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlimpinpin, en le square des Bastilles. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte. Et pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Rien à voir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse. Riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant les fleurs sauvages. Voir jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube n'a jamais sa chance. Contre qui ou bien contre quoi, pour qui, comment, quand et pourquoi, pour retrouver le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Bastilles. Et contre rien, contre personne et contre rien, et pour une rose entr'ouverte. Pour l'accordéon qui soupire et pour un souffle d'abandon et pour un jardin qui frissonne. Et vivre, vivre passionnément et ne combattre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour, au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance.
À la vérité, à l'exception d'une parenthèse vichiste, qui considérait les résistants comme des groupes terroristes, ce qui illustre en passant la relativité de la notion, le terme terrorisme est absent de la loi française jusqu'en 1986, en raison des difficultés à circonscrire cette notion et à lui donner un contenu juridique probant. Depuis, cette législation dérogatoire ne cesse de croître, au fil des nouveaux attentats, avec l'idée que le droit commun n'est pas adapté pour faire face à ce type de menace, à l'image de la lutte contre la criminalité organisée, de laquelle elle s'inspire. Ainsi, la loi de 1986 donne une première définition du terrorisme, à savoir une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Elle en tire certaines conséquences procédurales, notamment un allongement de la durée maximale de la garde à vue et la compétence des juridictions parisiennes. Une loi de la même année la complète pour instaurer une cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats. Une loi de 92 modifie le code pénal pour faire des infractions terroristes, des infractions spéciales plus lourdement sanctionnées. À partir de 2006, est pris en compte le cyberterrorisme et depuis 2014, le phénomène de la radicalisation. Les attentats de janvier et de novembre 2015, lesquels font plusieurs centaines de victimes, réveillent l'appareil législatif. L'état d'urgence est décrété, c'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'il l'est sur tout le territoire, et est plusieurs fois prorogé. Il permet de prendre des mesures exceptionnelles, comme par exemple d'assigner à résidence des personnes dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public, cela sur décision d'une autorité administrative et sans autorisation préalable d'un juge, ou encore de réaliser des perquisitions, notamment administratives. Entre 2015 et 2021, on compte 16 nouveaux textes relatifs au terrorisme. Cette inflation législative, dans le sens de la répression, suscite une crainte légitime de voir l'exception devenir la règle et de voir la sûreté l'emporter sur toutes les autres libertés. Nous verrons dans les prochains épisodes comment, concrètement, le processus pénal s'adapte de bout en bout aux phénomènes terroristes et les risques que cela engendre. Dans le prochain épisode, Tristan nous parlera de la spécialisation de la procédure pénale en matière terroriste. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.